Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. On se retrouve pour l'avant-dernière émission de cet après-midi consacrée au cours WE01, questionner le web, enseigné à l'Université de Technologie de Compiègne, mais dont vous pouvez retrouver le contenu librement sur librecours.net. Aujourd'hui et la semaine prochaine, donc mercredi prochain, les étudiantes et les étudiants viennent présenter le résultat de leur recherche du semestre, qui est articulé autour de grandes problématiques relié au web et plus généralement du numérique. Et vous allez le voir dans cette émission, on va faire un peu un grand écart. Justement, on est en direct avec 5 étudiants donc, qui ont fait 2 projets différents. Hugo, Antoine, Nolan, Mathieu et un autre Antoine. Bienvenue, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et donc Hugo et Antoine, c'est vous qui allez commencer. Et en fait, vous allez nous parler notamment du rapprochement entre les entreprises de la tech et le domaine militaire, si j'ai bien compris, là où dans l'esprit du grand public, c'est plutôt Facebook et la publicité ou les données personnelles. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très très connu. Et vous, Nolan, Mathieu, Antoine, vous allez nous parler de complètement autre chose, que vous allez remonter un peu au web du tout début, un temps où même moi je n'étais pas né vraisemblablement et nous parler un petit peu d'une transformation qu'il y a eu qui du coup ces deux illustres des pans de l'histoire du web méconnue mais intéressante et un peu liée finalement. Donc c'est à vous Hugo et Antoine, allez-y.
Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Hugo Sanchez et je suis avec Antoine Wallon.
Bonjour.
Donc on se retrouve pour discuter d'un article du Monde publié en septembre 2025 sur le virage militaire qui a été pris récemment par la Silicon Valley. Donc cet article parle d'un phénomène qui est de plus en plus important, qui est le rapprochement entre les grandes entreprises de la tech et l'armée américaine. Pendant longtemps, ces entreprises refusaient de participer aux projets militaires. On peut notamment penser aux contestations qu'il y a eu chez Google en 2018 au moment du projet Maven. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les entreprises comme OpenAI, Meta ou Palantir collaborent de plus en plus avec le secteur de la défense américaine. Selon elles, il est devenu nécessaire de soutenir les démocraties dans la compétition, notamment face à la Chine.
Ce que montre d'abord cet article, c'est que la manière de faire la guerre est en train de changer. Pendant longtemps, la puissance militaire reposait sur les équipements, c'est-à-dire les chars, les avions ou les missiles. Aujourd'hui, cette valeur stratégique se trouve davantage dans les logiciels et l'intelligence artificielle. Par exemple, un drone n'est réellement efficace que grâce aux algorithmes qui lui permettent d'analyser son environnement, de traiter des données ou d'assister les opérateurs dans leurs décisions. C'est justement dans ce domaine que les entreprises de la Silicon Valley disposent d'un avantage important. Elles maîtrisent les technologies d'IA et le traitement de données à grande échelle. Les conflits en Ukraine et à Gaza ont par ailleurs servi de terrain d'expérimentation pour ces technologies. Des outils comme Starlink ou certains logiciels développés par Palantir ont été utilisés directement sur le terrain et ont démontré leur utilité opérationnelle, transformant le champ de bataille en véritable laboratoire pour l'armée américaine. On voit ainsi apparaître une collaboration de plus en plus étroite entre le monde de la technologie et celui de la défense. Maintenant, on va vous passer un petit extrait d'une interview du PDG de Palantir.
Tell you this. So originally, the CIA, do you remember this, was an early investor in Qtel, the venture capital arm, was an early investor in Palantir. This is why I'm asking the question, actually, because I think there's a lot of people who are looking right now at sort of the industrial policy of the country. The country is taking stakes in businesses that they think are important, national security issues and the like. And
but isn't that a classically social democratic view?
Well, maybe it is. But my question to you, it was just going to be, if the White House came to you and said, look, hey, Alex, we really like you. We think you're important to this country. You're a very important part of this. And we, if we're going to continue to give you these contracts, we want a piece of the action. What you would think of that?
I mean, we'll cross that road when we get there. My understanding is people who are in dire trouble go to the White House and ask for money. And they say, we've made terrific business decisions, and we want your help. Why
wouldn't the American people participate?
Donc, comme on a pu l'entendre sans cet extrait, le PDG de Palantir estime que c'est tout à fait normal de la part d'entreprises privées d'aider le gouvernement américain en tant que citoyen américain lui-même. Donc, pour aller plus loin que cet article et cette interview, on peut voir que cette collaboration entre le monde de la tech et celui de la défense soulève plusieurs questions, notamment de la dimension économique. Le secteur de la défense représente un marché considérable et certaines entreprises technologiques y voient aujourd'hui de nouvelles opportunités de croissance. Mais les questions éthiques restent au centre du débat. Plus les systèmes deviennent autonomes, plus la question de la responsabilité devient difficile à trancher. Si une décision militaire est prise à partir d'un raisonnement algorithmique, qui est responsable en cas d'erreur ? Le militaire, l'entreprise qui a développé le système, ou personne en particulier ? Au-delà de ça, la question d'un problème de contrôle démocratique se pose. Les technologies utilisées sont souvent développées par des entreprises privées, dont les algorithmes restent largement opaques, rendant difficile de contester leurs décisions. Pour les citoyens, pardon. Les entreprises privées deviendraient alors toutes puissantes, presque les nouvelles formes gouvernantes. La dépendance des États envers elles et leurs technologies offre alors une influence quasiment illimitée aux entreprises privées.
Pour mieux comprendre ces enjeux, il est intéressant d'étudier le concept de société algorithmique. Ce concept désigne une société dans laquelle les décisions reposent de plus en plus sur des algorithmes et sur l'exploitation de données. L'idée est que les pouvoirs publics utilisent ces outils pour orienter, prévoir ou gérer certaines situations. Les algorithmes sont alors présentés comme capables de prendre des décisions plus rapidement et parfois plus efficacement que les humains. Cependant, ce modèle repose souvent sur l'idée que les algorithmes seraient neutres et objectifs. Or, ce n'est pas forcément le cas. Ils sont conçus par des humains et entraînés à partir de données qui peuvent contenir des biais. Un autre aspect important de la société algorithmique est la place occupée par les grandes entreprises technologiques. Dans de nombreux cas, les États ne développent pas eux-mêmes leurs outils numériques. Ils s'appuient sur des infrastructures et des logiciels fournis par des acteurs privés. Cette situation crée une forme de dépendance. Une partie du pouvoir décisionnel repose alors sur des technologies dont le fonctionnement n'est pas toujours transparent. Enfin, la société algorithmique repose beaucoup sur la logique de prédiction. On ne cherche plus seulement à comprendre ce qui s'est passé, mais aussi à anticiper ce qui pourrait se produire grâce à l'analyse massive de données. Et maintenant, un petit extrait d'un film que vous saurez peut-être reconnaître.
Old turbines. These new long-range precision guns can eliminate 1,000 hostiles a minute. The satellites can read a terrorist DNA before he steps outside his spider hole. We're going to neutralize a lot of threats before they even happen.
I thought the punishment usually came after the crime.
We can't afford to wait that long.
Who's we?
After New York, I convinced the World Security Council we needed a quantum surge in threat analysis. For once, we're way ahead of the curve.
By holding a gun to everyone on Earth and calling it protection.
You know, I read those SSR files. Greatest Generation? You guys did some nasty stuff.
Yeah. We compromised, sometimes in ways that made us not sleep so well. But we did it so that people could be free. This isn't freedom. This is fear.
S.H.I.E.L.D. takes the world as it is, not as we'd like it to be. And it's getting damn near past time for you to get with that program, Cap.
Don't hold your breath.
Donc, vous venez d'entendre un extrait de Captain America 2 et le soldat de l'hiver, dans lequel une des grandes menaces, c'est l'apparition d'une IA qui élimine les terroristes avant même qu'ils aient pu venir à bout de leur plan. Donc, pour revenir à notre sujet de société algorithmique et à notre article, l'article illustre plusieurs caractéristiques de cette société. D'abord, on retrouve l'idée que la puissance repose de plus en plus sur la capacité à collecter, traiter et exploiter des données. Dans le domaine militaire, ce ne sont plus seulement les équipements qui comptent, mais aussi les algorithmes qui les pilotent. Les conflits en Ukraine et à Gaza montrent concrètement comment ces technologies sont utilisées aujourd'hui. Ils servent de laboratoire, où l'on teste de nouveaux outils et où l'on récolte un maximum de données. On retrouve alors un principe central de la société algorithmique. Utiliser l'intelligence artificielle pour anticiper les situations, prédire certains comportements et orienter les décisions. Le rôle joué par des entreprises comme OpenAI, Meta, Palantir ou même SpaceX montre que les États dépendent de plus en plus d'acteurs privés pour développer leurs capacités technologiques. C'est exactement ce que met en avant le concept de société algorithmique. Une collaboration croissante entre des pouvoirs publics et une grande entreprise du numérique. En plus, les algorithmes, ici, occupent une place importante dans les décisions. Plus les questions de transparence, de responsabilité et de contrôle démocratique deviennent centrales. Ainsi, l'article montre que l'intelligence artificielle est désormais un élément essentiel des stratégies militaires contemporaines. Au-delà du domaine militaire, d'ailleurs, cette évolution nous invite à réfléchir à la place que nous souhaitons accorder aux algorithmes dans nos sociétés. Une question demeure donc. Si les algorithmes deviennent capables d'anticiper, de conseiller et même parfois de décider, quelle place souhaitons-nous encore laisser au jugement humain ? Merci pour votre écoute.
Merci beaucoup Hugo et Antoine pour votre travail. Bah, je vous propose d'enchaîner directement avec le groupe suivant qui va du coup faire un grand bond en arrière du temps où les géants du numérique en fait n'existaient pas encore, ne proposaient même pas de réseau social. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant ces géants du numérique ? Comment on s'exprimait sur le web ?
Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes Nolan, Mathieu et Antoine, étudiants dans le cadre du cours WE01, écrire, communiquer et collaborer sur les webs. Aujourd'hui, on va vous parler de mémoire, mais pas la mémoire d'un individu, sinon la mémoire d'un espace qui a compté pour des millions de personnes, le web des débuts. Notre émission s'appelle « L'archéologie du web » et elle pose une question très simple. Quand le web oublie, qui s'en souvient ? On va aborder ça en trois temps. D'abord, on va étudier un article scientifique sur la disparition de GeoCities. Ensuite, on va traiter un concept fondateur du web. Et enfin, on articulera les deux pour voir ce que ça nous dit de notre rapport collectif à la mémoire numérique.
Le 26 octobre 2009, Yahoo éteint les serveurs de GeoCities, l'un des premiers et des plus vastes services d'hébergement de pages web gratuites. En quelques heures, des millions de pages disparaissent. Pas de compte-rendu dans les journaux, pas de minute de silence, juste le silence. C'est ce moment qu'étudie Cathy McKinnon dans un article publié en 2022 dans la revue Internet Stories. Si elle est aujourd'hui docteur et chercheuse postdoctorale, c'est en tant que doctorante à l'Université de Toronto qu'elle rédige ce texte, au cours de sa thèse. Elle s'intéresse à l'histoire du web et aux questions éthiques des archives numériques. Pour comprendre sa thèse, il faut remonter en 1994. GeoCities, c'est le premier service d'hébergement web gratuit à destination du grand public. Le principe est original. On organise les pages personnelles en quartiers thématiques, Silicon Valley pour l'informatique, Hollywood pour le divertissement. En quelques années, la plateforme compte 2,1 millions de membres actifs, ce qui, pour le web près de 1000, représente une échelle colossale. 2,1 millions de comptes individuels, dont les titulaires, surnommés les Homesteaders, possèdent et gèrent chacun leur propre page personnelle. La plateforme devient le troisième site le plus visité au monde. N'importe qui peut y créer sa page, apprendre le HTML par imitation ou encore partager ses passions. En 1999, Yahoo rachète GeoCities pour 3,7 milliards de dollars. Et là, quelque chose se passe. Yahoo impose de nouvelles conditions d'utilisation qui revendiquent des droits étendus sur les contenus publiés. Concrètement, l'entreprise s'octroie le droit mondial, perpétuel et sans aucune contrepartie financière de reproduire, modifier, publier ou exploiter commercialement n'importe quel texte, image ou création mise en ligne par un utilisateur. La réaction est immédiate. Des milliers d'utilisateurs vident leur page et affichent les extraits des conditions contestées sur fond blanc ou noir. McKinnon appelle cet événement le « haunting » et le décrit comme l'un des premiers actes de l'activisme numérique de masse de l'histoire du web. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est ce qu'on appelle les plateformes eulogies, les oraisons funèbres de plateformes. Ce sont des pages délibérément altérées, vidées ou abandonnées par leur auteur, comme un message d'adieu à l'approche de la fermeture. En fouillant les archives de l'Internet Archive, une immense bibliothèque numérique à but non lucratif qui fonctionne comme une machine à remonter le temps en photographiant et sauvegardant en continu des milliards de pages web, elle retrouve ses traces. Des pages dégradées, des messages de départ, des mises en scène de deuil numérique. Et derrière cette fouille d'archives, il y a une question politique. Qui a décidé de garder ou d'effacer cette mémoire ? En 2009, le collectif Archive Team, un groupe de bénévoles militants, sauvegarde en urgence un tétraoctet de données GeoCities avant la fermeture définitive. Sans eux, il ne resterait presque rien. McKinnon conclut qu'archiver n'est pas un acte neutre. C'est une résistance contre l'amnésie programmée d'Internet et contre le pouvoir unilatéral des grandes entreprises technologiques qui décident seules de rayer de la carte une partie de notre patrimoine culturel numérique.
Alors maintenant, on va écouter un extrait du documentaire Digital Amnesia, produit par la télévision publique néerlandaise VPRO. Il est disponible librement sur YouTube.
Remains accessible. Should we leave that to the market, to a giant like Google, for example?
What about Google Books? They're scanning all our books.
Google is scanning a lot of books, and I don't trust them to keep any of them. I certainly don't trust them to make them accessible to the public. They have already shut down access to a lot of those books. It's much harder. You can't just read a book online. Google is not a library. And so when people see Google Books, they think, oh, that means library. What they really mean is pile of more data for us to use to sell you more things.
Google is actually in many ways the closest organization to us, even though they are tens of thousands of people and doing fantastic things. But they also want to go and build a library of everything. But they're a commercial player, and that's meant that they've done things in ways that actually are probably not quite right. So Google Books project started out with a grand vision of digitizing these libraries, but then they locked up the public.
Alors, ce qu'on vient d'entendre illustre exactement ce que Mackinnon décrit dans son article, l'idée que la mémoire d'une plateforme ne se conserve pas toute seule. Elle suppose un acte volontaire, souvent militant, souvent bénévole. Et on va voir maintenant comment le web, à l'origine, avait été pensé dans une logique radicalement différente. Pour comprendre pourquoi la disparition de GeoCities n'est pas juste la mort d'un site web parmi d'autres, il faut analyser le glissement politique et technique qui s'est opéré depuis. Sous prétexte de progrès, nous avons souvent assimilé démocratisation à standardisation et délaissé la décentralisation au profit du confort. En 1991, lorsque Tim Berners-Lee, un physicien et informaticien britannique, chercheur au CERN, invente le World Wide Web, son architecture est explicitement pensée pour être décentralisée. Dans ses notes de conception initiale, il décrit un système d'information sans nœud central ni autorité unique, garantissant qu'aucun acteur ne puisse s'approprier ou couper le réseau. Le tout premier navigateur, nommé World Wide Web, est aussi un éditeur. Lire et écrit y sont initialement pensés de manière symétrique. Le HTML est alors perçu comme un outil d'émancipation technique. Certes, au milieu des années 1990, l'accès à l'informatique personnelle reste le privilège d'une minorité dotée de compétences spécifiques et de matériel coûteux. Mais pour ces premiers usagers, il suffisait d'ouvrir un éditeur de texte basique et de maîtriser quelques bases d'anglais et les premières balises élémentaires pour publier du contenu visible et légal de n'importe quelle organisation. Par ailleurs, la possibilité de voir le code source d'une page via le raccourci CTRL+U n'est pas un simple manifeste politique, mais une nécessité technique. Le navigateur ayant besoin du texte brut pour afficher la page, ce code est structurellement accessible à l'utilisateur. Ce n'est pas un hasard si cette visibilité a produit une culture de transparence. Comme on a vu dans le cours, la technique n'est jamais neutre. Le HTML inscrivait dans sa structure même une invitation à apprendre, à copier, à modifier. Distincte du mouvement formel du logiciel libre, cette visibilité du code des pages web a fait de GeoCities une école à ciel ouvert. C'est précisément grâce à ce mécanisme de réutilisation et d'imitation du code d'autrui que des millions de personnes ont appris à concevoir le web. C'était l'époque d'un web horizontal, où l'utilisateur se demandait « qu'est-ce que je vais fabriquer aujourd'hui ?» Aujourd'hui, l'argument courant en faveur de la démocratisation du web repose sur son accessibilité, par des milliards de personnes dans le monde. Cependant, cette massification s'est accompagnée d'une standardisation. Pour mettre le réseau à la portée de tous, on a lissé les interfaces et enfermer les usages dans des applications bien propres. Nous ne créons plus de sites, nous alimentons des bases de données à travers des formulaires préformatés sur Instagram, TikTok ou LinkedIn. Nous sommes logés dans des appartements témoins numériques, tous identiques, gérés par une poignée de syndics de propriété géants, les GAFAM.
Parallèlement, la décentralisation a été sacrifiée pour le confort, pour faire tourner des plateformes centralisées qui gèrent des millions de connexions de façon fluide et sécurisée. L'industrie a donc empilé des couches de complexité. Framework JavaScript, outils de compilation, serveurs cloud, etc., etc. Le code source visible n'est plus du HTML lisible, comme à la base. C'est un jargon minifié, optimisé pour les machines et opaque pour les humains. Il faut être honnête, ce web centralisé est ce qu'on appelle un pharmacon, c'est-à-dire un remède et un poison à la fois. Remède parce que cette centralisation répond à des besoins réels d'accessibilité, de sécurité et de performance. Le web de 1996 était libre, mais il était aussi instable, majoritairement anglophone et socialement sélectif. La simplicité du HTML originel était indissociable d'une forte barrière à l'entrée technologique. Le côté poison vient parce que, qu'en déléguant la gestion technique à des intermédiaires centralisés pour gagner en confort, l'utilisateur a perdu la maîtrise directe des outils qui structurent ses interactions sociales et sa vie quotidienne. La fin de GeoCities symbolise ainsi le deuil d'une technologie comme un certain terrain de jeu horizontal. Nous sommes passés d'un modèle horizontal où le réseau était un espace de co-construction à un modèle vertical de diffusion de contenu, transformant une certaine partie des acteurs du web en spectateurs, condamnés à se demander « qu'est-ce qu'on va me donner à regarder aujourd'hui ?» Pour illustrer cette idée d'un web pensé comme un espace commun d'écriture, on va écouter un court extrait. C'est un passage d'une conférence de Tim Berners-Lee, disponible sur le site W3C, sous licence ouverte. Il y explique, en 2014, pourquoi il considère que le web est encore en danger.
I want one which is not fragmented into lots of pieces. Some countries have been suggesting they should do in reaction to the recent surveillance. I want a web which has got, for example, is a really good basis for democracy. I want a web where I can use healthcare with privacy and where there's a lot of health data, clinical data is available to scientists to do research. I want a web where the other 60% get on board as fast as possible. I want a web which is such a powerful basis for innovation that when something nasty happens, some disaster strikes, then we can respond by building stuff to respond to it very quickly. So those are just some of the things that I want. I mean, from a big list, obviously.
Ce qu'on vient d'entendre pose la question de la suite. Si le web originel portait cette vision d'un espace commun d'écriture, et si GeoCities en était l'une des incarnations les plus populaires, qu'est-ce que cette disparition dit vraiment de l'état du web aujourd'hui? C'est ce qu'on va essayer d'articuler maintenant.
Si on met côte à côte ce que Mackinton documente et ce que le cours de WE01 nous apprend sur le web comme espace de l'écriture-écriture, quelque chose saute aux yeux. Les pages de GeoCities, que des utilisateurs ont laissées comme adieu, souvent écrites en HTML brut, à la main, ne sont pas des vestiges d'un web où il était plus simple de créer. Elles sont les vestiges d'un web où la création était un geste conscient et autonome, distinct de la simple consommation. La fermeture de la plateforme par Yahoo en 2009, c'est l'effacement d'une pratique entière, celle d'un web où l'on était auteur, pas usager.
Il y a une continuité directe entre la philosophie du HTML et la possibilité même de l'archivage militant. Archive Team a pu sauvegarder à un téraoctet de GeoCities précisément parce que les pages étaient des simples fichiers HTML, légers sans dépendance, lisibles par n'importe quel logiciel. Un fichier HTML de 1996 s'ouvre encore aujourd'hui dans n'importe quel navigateur. A l'inverse, un réseau social centralisé est pratiquement inarchivable sans l'accord de la plateforme. Les contenus sont stockés dans des bases de données privées, l'interface est générée dynamiquement, les robots d'exploration sont souvent bloqués. L'ouverture technique du web des origines n'était pas seulement une caractéristique esthétique, c'était une condition de sa résilience mémorielle.
Mais il faut aller plus loin dans la nuance. Certains éléments du glissement vers le web centralisé étaient peut-être inscrits dans les protocoles eux-mêmes, bien avant Yahoo. HTTP, dès sa première version, prévoit que ses entêtes soient extensibles. Cette flexibilité, conçue pour s'adapter aux usages futurs, a aussi ouvert la voie à des usages monopolistes. C'est dans ces mêmes entêtes que transitent aujourd'hui les cookies et beaucoup de ce qui permet aux grandes plateformes de tracer les utilisateurs. La centralisation du web n'est pas simplement le fruit d'une décision économique de Yahoo en 2009, Elle s'appuie sur une plasticité technique qui existait dès le départ.
Ce qu'amène la vraie question politique de maintenant. Si Archive Steve n'avait pas agi, qui nous parlerait du web des années 1990 ? Les entreprises qui ont absorbé ou remplacé ces plateformes n'ont absolument aucun intérêt économique à raconter une histoire du web qui précède leur propre importance. La mémoire disponible du web risque de devenir la mémoire que les grandes plateformes acceptent de conserver. C'est elles qui gèrent ça. MacKinnon appelle ça, en s'appuyant sur la théoricienne Jody Dean, le « displaced mediator ». Les plateformes tentent de faire croire qu'elles ont toujours été là, que les usages actuels sont naturels et inévitables. Les archives militantes produisent un contre-récit, donc.
Et des contre-récits, il en existe encore. Le mouvement IndieWeb encourage la création de sites personnels indépendants. L'Internet Archive continue son travail de sauvegarde systématique. Des protocoles alternatifs comme Gemini proposent un web encore plus léger que HTTP. Ces initiatives restent marginales en termes d'audience.
Comprendre donc l'histoire de GeoCities, c'est comprendre que le web aurait pu être autre chose qu'un produit périssable sous une simple licence propriétaire. C'est comprendre pourquoi la lutte pour sa mémoire est une lutte véritablement politique. Et cette lutte ne commence pas et ne finit pas en 2009. Vous venez d'écouter l'archéologie du web réalisée par Nolan Bayou, Mathieu Legrand et Antoine Bayle dans le cadre du cours WE1. Notre site est disponible en ligne avec les sources et la bibliographie complète. Le contenu de cette émission est placé sous licence Creative Commons Attribution. Vous êtes libre de le réutiliser à condition de nous citer et de le partager dans les mêmes conditions. Merci de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup Nolan, Mathieu et Antoine pour votre présentation et puis vous avez eu aussi l'originalité de nous proposer une musique à écouter sous licence libre qu'on va passer pour terminer l'émission avant d'enchaîner sur la dernière de cette fin d'après-midi. Et vous avez choisi la musique Soundwater de l'album Shower du groupe Glacière, avec un A dans le E, ou un E dans le A, et vous l'avez déniché sur Bandcamp, c'est sous licence Creative Commons by SA, donc attribution, la même chose que votre contenu. C'est parti, merci encore, et à tout à l'heure.